Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous avez 5 minutes ? Alors que la Catalogne ne semble pas vouloir dévier du chemin qui l'amène vers l'indépendance, le bras de fer s'intensifie avec le gouvernement espagnol. Mais au fait, comment devient-on un pays indépendant ? Est-il un mode d'emploi, un cahier des charges, une marche à suivre ? Par quelles étapes concrètes la Catalogne devra-t-elle passer pour gagner ce statut si elle va au bout de sa démarche ? On a posé toutes ces questions à Pierre Baudot-Livinec, professeur de droit public au Centre de droit international de l'Université Paris-Nanterre. Pierre Baudot-Livinec, bonjour.
Bonjour.
On regarde beaucoup ce qui se passe du côté de la Catalogne en ce moment. On se posait une question, est-ce qu'il existe un mode d'emploi, une marche à suivre pour qu'une région ou un pays acquiert son indépendance ?
Alors non, il n'y a pas de mode d'emploi, mais c'est une bonne question. Il n'y a pas de mode d'emploi parce qu'il pourrait y en avoir un. Lorsqu'on veut créer une association ou même une région, à l'intérieur, une nouvelle région à l'intérieur d'un État, il y a un mode d'emploi législatif qui dit, ou constitutionnel, qui dit comment on fait. Mais il n'y en a pas pour créer des États, parce que le droit international ne crée pas les États. Ce sont les États qui font le droit international. Ils sont antérieurs, en fait, au droit international. La création de l'État, elle relève d'un fait qui réunit un certain nombre de conditions. Si ces conditions sont réunies en fait, alors, objectivement, l'État peut exister, si vous voulez. Mais il n'y a pas de mode d'emploi juridique pour créer un État.
Est-ce qu'il y a des textes de référence sur quel fondement juridique un État ou une région peut se baser pour demander, réclamer, obtenir son indépendance ?
Alors, pour la raison que je viens d'indiquer, il n'y a pas de texte de référence, il n'y a pas de traité, par exemple, qui permettrait de créer les États. Mais on peut tout de même trouver un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Les premiers, c'est dans la jurisprudence. Par exemple, la commission Badinter, qui avait été créée au moment de la dissolution de la Yougoslavie, au début des années 90, elle avait rappelé, cette commission, quels étaient les éléments d'identification de l'État, c'est-à-dire la réunion d'un territoire, d'une population, d'un gouvernement, et surtout, bien sûr, le caractère déterminant de l'État, qui est la possession de la souveraineté. On peut aussi penser à la Charte des Nations Unies. L'ONU n'octroie pas la qualité d'État. En revanche, elle n'admet en son sein que des États. Donc, ce que dit la charte et la pratique de l'ONU dans son admission de nouveaux membres, elle est évidemment intéressante de ce point de vue-là.
Donc il ne faut pas forcément obtenir une reconnaissance de l'ONU pour être un État ?
Non, il faut d'abord être un État pour avoir la reconnaissance de l'ONU. Pour être tout à fait précis, pour des raisons politiques, en 1945, lorsque l'ONU a été créée, des entités qui n'étaient à l'époque pas des États, comme l'Ukraine ou la Biélorussie, qui étaient en fait des parties de l'Union soviétique, ont été membres fondateurs de l'ONU. Mais ça, c'est vraiment une exception. En réalité, vous avez des entités qui sont des États, et qui peuvent choisir de rester en dehors de l'ONU ou que l'ONU, pour des raisons politiques, ne veut pas admettre comme membre. Les exemples les plus évidents de cela aujourd'hui, c'est le Kosovo, d'une part, qui est reconnu par plus d'une centaine d'États dans le monde, mais qui, pour des raisons politiques, l'opposition de la Russie au Conseil de sécurité notamment, n'est pas membre des Nations Unies. Et puis la Palestine, bien sûr. La Palestine, elle a un statut encore plus particulier, parce que comme le Vatican, la Palestine est reconnue comme État par les Nations Unies, mais elle n'est pas membre. Elle est État observateur au sein des Nations Unies. Et pour terminer là-dessus, on peut aussi dire que aux Nations Unies, une certaine magie s'opère, un peu difficilement parfois, mais une certaine magie s'opère puisque vous avez des États qui se côtoient littéralement, hein, qui ont des sièges les uns à côté des autres à l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que ces États s'ignorent superbement, ne se reconnaissent pas. Je pense notamment, évidemment, à l'attitude des États, de certains États du Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël. Les États ont besoin de reconnaissance parce que, avec cette reconnaissance des autres États ou des organisations internationales, ils peuvent développer des rapports internationaux, politiques, juridiques, économiques, financiers. Ils peuvent donc s'affirmer comme des États. Donc une Catalogne objectivement indépendante qui parviendrait à se libérer complètement des liens avec l'Espagne, c'est très hypothétique, hein. Mais même si l'on suivait ce chemin, toute la question serait de savoir si cette Catalogne, pardon, arrive à s'affirmer dans ses relations avec les tiers comme État, et qu'elle est prise comme un État, prise au sérieux comme un État par les autres États.
Alors ça, c'est la reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, mais du point de vue de l'intérieur, qu'est-ce qu'elle devrait faire en premier dans son organisation pour arriver à être constituée comme un État indépendant ?
Alors, il n'y a pas de recette, si vous voulez, prédéterminée, mais comment un État va s'affirmer ? Bon, si l'on admet que la question du territoire et de la population, dans la plupart des cas, ne pose pas de problème, bon, il y a toujours un territoire, il y a toujours une population, et en plus, le droit international n'est pas du tout regardant, c'est-à-dire qu'il ne demande pas que cette population fasse peuple, hein, de ce point de vue-là, il ne demande pas que le territoire soit homogène, donc le droit international est très, très flexible de ce point de vue-là. Donc l'élément qui va être vraiment important, c'est le développement d'une puissance publique, d'un appareil gouvernemental qui puisse porter cette revendication d'indépendance. Donc, adopter une constitution, par exemple, c'est un acte qui vient certainement conforter l'indépendance. Couper les liens fiscaux, monétaires avec l'ancienne puissance tutélaire, c'est aussi un élément qui peut être important. Dans le cadre de la décolonisation dans les années 60, alors les nouveaux États qui, eux, ont pu se revendiquer du droit à l'autodétermination pour devenir indépendants, ces nouveaux États, souvent, bien sûr, ils ont adopté une nouvelle constitution, ils ont adopté une nouvelle monnaie, mais souvent pour se faciliter la vie en tant que nouvel État, eh bien, ils ont gardé certains emblèmes, certains signes, certaines pratiques juridiques de l'ancienne puissance coloniale. Les constitutions des États d'Afrique de l'Ouest, pardon, sont souvent assez proches, en fait, de la constitution de la Ve République française. Ces États nouveaux, ils ont accepté de s'inscrire dans les frontières du colonisateur. Vous voyez, donc, pour terminer là-dessus, un nouvel État, administrativement, politiquement, juridiquement, il ne va pas forcément toujours faire table rase. Il va peut-être parfois reprendre un peu la tradition antérieure pour s'affirmer plus facilement comme État.
Si demain la Catalogne proclame son indépendance, que devra-t-elle faire en premier ? Ce sera quoi son premier geste ?
Alors, je ne suis pas dans les papiers du gouvernement de la Catalogne, mais j'imagine que l'un de ses premiers gestes, disons ses trois premiers gestes, sera sans doute d'affirmer une constitution de la Catalogne en tant qu'acte juridique fondateur. Vis-à-vis de l'Espagne, de redéfinir ses liens, c'est-à-dire peut-être d'établir une frontière, ou peut-être de revoir ses liens politiques, peut-être surtout de refuser de payer l'impôt à l'Espagne. Et puis troisième geste, la Catalogne se tournera immédiatement vers l'Union européenne, vers les Nations unies, alors sans doute sans succès au début, mais se tourner en tant qu'entité, poser la question de sa reconnaissance à ces entités internationales, c'est déjà dépasser, si vous voulez, la logique du droit interne, en l'occurrence espagnol, pour s'affirmer comme un acteur international. Donc même s'ils échouent, ils le feront quand même. C'est ce qu'a fait la Palestine. La Palestine était observateur depuis très longtemps aux Nations Unies. En 2011, elle a demandé à devenir membre des Nations Unies. Pour des raisons politiques, cela lui a été refusé. Et bien, elle s'est tournée vers l'Assemblée générale des Nations Unies pour obtenir quelque chose de très important pour elle, c'est-à-dire d'être reconnue comme État observateur. Non membre, mais État observateur. La Catalogne fera sans doute des efforts politiques assez rapidement pour se tourner vers ces institutions internationales.
Très bien, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Bonne journée à vous.
De rien, bonne journée.
Binge Audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.